Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons beaucoup essayé de nous pénétrer de la vertu de justice. Il est temps que nous cherchions à nous pénétrer de la vertu de religion. La vertu de religion est une vertu annexe à la justice. Et une première question se pose, pourquoi est-elle annexe alors qu'en réalité elle lui est supérieure? La justice exige de faire ce que l'on doit. Et envers Dieu, on sera toujours débiteur. La justice ne sera jamais accomplie de notre part envers Dieu. C'est pourquoi la vertu de religion ne répond pas strictement à la définition de la justice. Ceci mis à part, il est évident que la première de toutes les justices, c'est celle envers Dieu. Et saint Thomas d'Aquin pose la question, mais la réponse est évidente. La vertu de religion est-elle la première de toutes les vertus? Et il répond oui, parce que c'est celle qui nous approche le plus de notre fin qui est Dieu. Fin F-I-N, notre but. Si nous avons bien compris que la justice consiste à faire ce que l'on doit au service du bien commun, il est évident que le but, bien et but, ce sont deux notions interchangeables, il est évident que le but de l'homme, le bien de l'homme, c'est le culte de Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, Dieu connu, aimé, reconnu. Et par conséquent, la vertu de religion va saisir l'homme, elle va nous saisir pour nous mettre au service et particulièrement au service du culte de Dieu. Alors là, les remarques se bousculent, si l'on peut dire, parce que c'est une toute autre manière de voir la vie que celle à laquelle on est habitué. On est habitué à considérer en premier notre bien, notre manière de vivre, le milieu de vie. Ce sont des choses qu'on ne remet pas en cause. On ne remet pas en cause le fait d'avoir un métier, le fait de vivre dans un pays, de posséder une maison, d'avoir un style de vie, de posséder un certain nombre de choses, tout ça, on ne le remet pas en cause, et on se débrouille pour servir Dieu avec tout cela. Les meilleurs mettent cela au service de Dieu, les moins bons sont des espèces de schizophrènes qui font deux parts, une part pour Dieu, et une part tout le reste dont nous avons parlé. Si on comprend bien ce qu'est la vertu de justice, cela va nous révéler quelle est l'activité humaine que Dieu attend de nous. Je vous ai pris l'exemple de Surcouf, avec ses marins qui voulaient mettre l'Angleterre à genoux. Il est évident que les marins ne faisaient pas deux parts dans leur vie, une part leur famille, leur maison, leur métier, que sais-je encore, et puis on se débrouille dans la mesure où il reste de la place et du temps et de l'énergie, Il en reste un peu plus si on est généreux, un peu moins si on n'est pas généreux. On se débrouille pour travailler dans la mesure du possible à mettre l'Angleterre à genoux. Eh bien non. Il est évident que ceux qui se mettaient à la suite de Surcouf sur son bateau pour mettre l'Angleterre à genoux voyaient la vie d'une autre manière que ceux qui discutent avec eux-mêmes et qui restent à terre. Or, nous sommes sur le grand navire de l'existence, ou plutôt sur le navire qui vogue sur la mer de l'existence. Il ne faut pas que je me mette à faire de la poésie, cela me réussit fort peu. Je suis plutôt un avocat. Malgré tout, et nous allons envisager, si vraiment nous comprenons la vertu de religion telle qu'elle doit être comprise, alors nous voyons la vie d'une toute autre manière. Et c'est bien ce que Mgr Lefebvre nous a enseigné. Le malheur, c'est qu'on pourrait croire qu'il ne l'a enseigné qu'aux prêtres et aux prêtres généreux. Dieu sait s'il nous a parlé de la vertu de religion. Il est vrai que chacun comprend, en fonction de ses capacités, que les capacités d'un séminariste ne sont pas celles d'un prêtre. Les capacités d'un jeune homme peut-être généreux, mais orgueilleux souvent, je le dis pour moi en tout cas, ne sont évidemment pas aussi développées que celles d'un jeune homme généreux et humble. Et qu'il y a manière et manière de se mettre au service de Dieu, il y a une manière dans laquelle on trouve de grandes satisfactions, et le danger est de pouvoir peut-être chercher ces satisfactions, et puis une autre qui est totalement désintéressée, on sert Dieu pour servir Dieu, parce que Dieu est Dieu, et on ne s'attarde même pas aux satisfactions qu'on peut y trouver. Comment la vertu de religion que Mgr Lefebvre a prêchée à ses prêtres est-elle vécue par les laïcs? Monseigneur a donné quelques pistes, mais pas beaucoup, je veux dire des pistes concrètes. En réalité, il nous a donné toute la réponse en nous disant ce qu'est le prêtre, il nous dit ce qu'est le fidèle, car le prêtre fait le fidèle. Il n'y a pas d'autre vertu de religion pour le fidèle que pour le prêtre. De même qu'il n'y a pas d'autre vertu de justice sur le bateau pour les matelots que pour le capitaine ou pour le barreur. Ils sont tous à mettre l'anglais à genoux, à le chercher du moins. Ils consacrent tous leur énergie, toute leur énergie, l'un à la barre, l'autre dans les huniers, le troisième à aller sur les drisses, mais le principe est le même, tout est consacré. Or, quel est l'objet de la vertu de religion? Parce que du moment qu'il y a une vertu, il y a un objet. Les choses, les actes, se définissent par l'objet. Quel est l'objet de la vertu de religion? Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a dans la vertu de religion les actes intérieurs et les actes extérieurs. Nous avons tendance, nous, à faire très attention aux actes extérieurs, mais Saint Thomas nous dit qu'ils ne sont qu'une manuduction. Une manuduction, on pourrait dire, ils nous prennent par la main, ils sont une rampe, ils sont une aide, nous sommes conduits. L'important, ce sont les actes intérieurs. Et ces actes, il y en a deux. Pas plus, deux. Le premier, je ne sais pas si vous allez le trouver, le premier, c'est le dévouement au service de Dieu. En latin, on dit « devotio », mais il ne faut pas traduire par « dévotion ». Enfin, pas dans le français moderne. Dans le français ancien, oui, on comprenait ce que voulait dire la dévotion. Il faut traduire dans le français moderne par « dévouement ». Et le deuxième acte intérieur, c'est la prière. Nous parlerons de la prière la prochaine fois, dans le prochain sermon. Parlons du dévouement. Si nous avons bien compris ce qu'est la vertu de justice, surtout la vertu de justice légale, politique, qui nous prend tout entier pour le service de la société, le bien commun plus exactement, parce qu'une société c'est un bien connu, aimé, partagé, duquel on vit, le bien de l'homme, c'est de tous les hommes, c'est Dieu, la vertu de justice envers Dieu nous met au service de Dieu. Et tout le reste va être utilisé pour ce service. Faites bien attention. Cela nous fait voir le monde, la terre, la vie sur terre, d'une toute autre manière. Il faut, et c'est comme cela que c'était envisagé dans les grands siècles de chrétienté, notamment au Moyen-Âge, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous prenez n'importe quelle ville, n'importe quel village, c'est plus facile à voir dans les villages parce qu'on a plus facilement une vue d'ensemble. Vous avez des maisons qui font toutes un, quelquefois deux étages, et vous avez au milieu une église qui fait 3, 4, 5, 6 fois leur hauteur. Et c'est l'unique bâtiment. Je vous l'ai dit, je reviens d'un pèlerinage périple sur le front de 14, sur les pas de ceux de 14. Tous les villages, sans exception, qui ont été détruits, rasés, on peut dire intégralement rasés, pendant la guerre de 14, tous, ce qui a été reconstruit, c'est le lieu de culte. Et quelquefois, il n'y a eu que cela de reconstruit. Il n'a pas été possible de reconstruire le reste, peu importe les raisons. C'est une autre, même à cette époque, on avait une autre manière de concevoir la vie. L'homme est sur terre pour honorer Dieu, pour faire briller la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, et il faut concevoir la vie sur terre, la terre, l'univers, comme un grand temple, une grande église, un grand lieu de culte dans lequel se déroule une liturgie. Et la liturgie, ce sont des choses extérieures, mais essentiellement des actes intérieurs. Une liturgie qui fait que les cœurs chantent la gloire de Dieu et manifestent la gloire de Dieu. C'est très net dans les psaumes. Il n'y a que cette gloire de Dieu qui compte. On est loin, évidemment, de la vision matérialiste des choses. Notre Seigneur Jésus-Christ est le grand religieux, c'est-à-dire que ce que je vous explique est quelquefois difficile à comprendre et il nous a fallu être pris par la main. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné et dans son humanité, il nous prend par la main. Et il va y avoir deux aspects à comprendre dans la vie de notre Seigneur pour l'imiter, parce que notre Seigneur est un modèle, hein. Il nous prend par la main, il saute le fossé, et puis nous passons de l'autre côté, comme fait le papa. Eh bien, là, il ne s'agit pas de sauter un fossé, il s'agit de travailler pour Dieu, de vivre pour Dieu, d'agir pour Dieu. Il y a deux aspects. Ce qu'aurait été le culte rendu à Dieu s'il n'y avait pas eu le péché, et le culte rendu à Dieu aujourd'hui du fait qu'il y a eu le péché. Ça ne change pas le culte. Mais évidemment, cela va donner au repentir, au sacrifice, à la justification, une place, évidemment, qu'il n'y aurait pas eu, ou pas de la même manière, s'il n'y avait pas eu le péché. Mais essayons de voir ce qu'aurait été la vie de notre Seigneur Jésus-Christ s'il n'y avait pas eu le péché. Comment l'homme-Dieu aurait-il vécu ? Il est évident qu'il n'aurait vécu que pour son Père, puisque, de fait, même après le péché, il n'a vécu que pour son Père. Après le péché, il ramène les hommes à Dieu. Et alors évidemment, ça peut nous fausser les choses si nous ne sommes pas attentifs. On ne voit que le fait de prendre les hommes par la main. Et puis on oublie où on va. On oublie ce qu'on leur demande. Et puis on finit par voir que la main. Et c'est le monde moderne. Pour ne pas parler des horreurs de Vatican II avec Gaudium et Spes. Ce qu'aurait été la vie de notre Seigneur s'il n'y avait pas eu le péché, nous aide à voir ce qu'il restaure. C'est cela qu'il restaure. Le péché nous a mis des bâtons dans les roues, mais nous nous en libérons. Nous écartons du péché, nous nous libérons du péché. Jésus-Christ nous purifie des péchés. Et une fois que nous sommes purifiés du péché, que faisons-nous? Eh bien, nous sommes au service de Dieu. Il faut voir, je vous disais, le monde comme une grande liturgie, ou plutôt comme le lieu de la grande liturgie, mais de la liturgie des cœurs, celle que les anges voient, pas seulement la liturgie extérieure qui n'est qu'une aide. Dans le monde moderne, évidemment, tout cela nous paraît impossible. Est-il raisonnable encore d'envisager le monde entier comme le grand temple de la gloire de Dieu, alors que manifestement tout cela est démoli? Est-ce que ce n'est pas de l'idéalisme de ma part de vous prêcher cela? Et ne devrais-je pas prendre conscience des réalités qui font qu'aujourd'hui on se débrouille? Et que certes l'individu va honorer Dieu, mais premièrement, il est dans un monde qui le prend et dont il ne peut pas se sortir, qui a sur lui une emprise. On va donner le reste à Dieu, on va se débrouiller. Et puis, peut-on vouloir, comme vertu de religion, autre chose qu'une vertu strictement personnelle ou avec des amis, ou en famille, à la limite, dans la chapelle, encore que nous n'avons plus beaucoup de chapelles maintenant. Eh bien oui, c'est réaliste. Monseigneur Lefebvre nous prêchait le Christ roi, il passait son temps à nous prêcher le Christ roi, et la royauté universelle de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce grand temple qu'est le monde entier, le roi qui est honoré par toute la foule de ses serviteurs. Vous allez me dire, mais Dieu va-t-il restaurer cela? Parce que si nous y travaillons, même si nous ne le voyons pas, mais qu'un jour cela doit arriver, alors notre travail a du sens. Mais si nous travaillons à cette gloire de Dieu dans le monde entier et qu'elle ne sera jamais réalisée, qu'elle ne doit jamais être réalisée, alors nous poursuivons une chimère et puis rabaissons nos prétentions et puis cherchant à vivre en bon chrétien, et puis point barre. Faisons attention avec toutes ces formules, vivre en bon chrétien, qu'est-ce que ça veut dire vivre en bon chrétien? Certainement, ça veut dire ne pas pécher, mais est-ce que cela suffit de ne pas pécher? Tout ce que je vous explique, tout ce que je vous prêche, justement, vous montre la nécessité d'être grandement au-dessus de ces simples prétentions minimales. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous ne sommes plus dans les conditions avant la chute, avant le péché. Nous sommes dans les conditions après le péché. Eh bien, malgré cela, notre Seigneur Jésus-Christ a rendu à Dieu, son Père, un culte extraordinaire qui suscite à lui tout seul pour emplir l'univers d'un chant merveilleux à la gloire de son Père. Lorsque les anges, se penchant sur les balcons du ciel pour voir notre Seigneur Jésus-Christ, c'était un cri d'admiration en voyant et en entendant cette louange que le Christ donnait à son Père. Nous sommes appelés à entrer dans cette louange du Christ à son Père. Pas seulement à nous y associer, pas seulement à le suivre. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une justice générale, d'une justice sociale, c'est-à-dire que nous n'avons pas notre petite religion à côté de la religion du Christ. Nous entrons dans la vertu de religion du Christ. Nous honorons Dieu le Père en Jésus-Christ. Pas seulement avec Jésus-Christ, mais par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Per ipsum, in ipso, et cum ipso. Pas seulement cum, avec, mais per, par. Parce que, à cause de la chute, je vous l'expliquerai, nous ne pouvons plus honorer Dieu dans la vertu de religion par nous-mêmes, et in Christo, dans le Christ. C'est le Christ qui honore Dieu. Et nous allons faire attention, et je pense, mes bien chers frères, il faut que je m'arrête parce que le temps est écoulé, je pense, mes bien chers frères, que le monde moderne, loin d'être un obstacle à la pratique de la vie, de la vertu de religion, à la belle grande pratique de la vertu de religion générale et universelle, loin d'être un obstacle, va au contraire nous faciliter les choses. Pourquoi courir après tous ces biens, enfin on appelle ça des biens, tous ces biens matériels, tous ces leurres, tous ces mensonges du monde moderne, maintenant que nous savons que ce sont des leurres, des mensonges du monde moderne? Pourquoi continuer à nous poser les questions de la vie professionnelle chez Alcatel alors que nous savons maintenant ce qu'est le capitalisme? Pourquoi, mes chers amis, les jeunes là qui m'écoutaient, qui rêvaient de faire des stages au Canada, pour les paresseux parce qu'on y parle français, aux États-Unis, pour les orgueilleux parce que les États-Unis c'est le summum, en Chine, ça c'est pour ceux qui veulent de l'argent parce que c'est l'avenir. Personne ne veut faire un stage au Nigeria, c'est dommage. Ni en Algérie, c'est dommage. Et vous tous, les jeunes, là, qui m'écoutez, qui voulez faire des stages à l'étranger, mais que cherchez-vous? Après quoi courez-vous? Quel est l'intérêt pour la gloire de Dieu d'aller au Canada, d'aller aux États-Unis, d'aller en Chine? Dites-moi un peu. On s'habitue à cela. On se réjouit, les parents se réjouissent parce que leur fils est parti faire un stage en Chine. Parce qu'il est parti faire un stage en Angleterre. Ah, tu sais, il parle très bien anglais. D'abord, aux États-Unis, on ne parle pas anglais, on parle américain. Et puis, zut! Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis persuadé que ce monde moderne, parce qu'il est pourri et qu'il nous montre sa pourriture, nous montre que ça ne vaut pas la peine de nous préoccuper de lui. Et bien sûr, mes bien chers frères, vous allez vous poser la question et nous y répondrons dans un autre sermon. Alors comment allons-nous pratiquer la vertu de religion d'une façon sociale, politique? Mais je vous l'ai dit, par Jésus-Christ. Allons-nous la pratiquer alors que ce monde s'écroule? Eh bien oui, en Jésus-Christ, nous allons trouver le moyen. Et peut-être qu'aux yeux du monde, cela ne paraîtra pas une grande liturgie universelle, mais aux yeux de Dieu et des anges, oui, et puis même aux yeux du monde, il y a une louange donnée à Dieu à la face des mécréants, à la face des athées. Et cette louange permettra le jour du jugement dernier que nous soyons assis avec les apôtres sur les sièges pour juger les tribus d'Israël. Et à ce moment-là, les tribus d'Israël verront ce qu'est la vraie louange et après quoi elles ont couru. La très sainte Vierge vous aidera également à savoir quel est le culte à rendre à Dieu. Le dévouement, la dévotion. Le vrai dévouement à Dieu. Méditez sur la vie de la Sainte Vierge par rapport à Dieu et vous comprendrez beaucoup de la vertu de religion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.